Non, ça tombe bien parce qu'on m'a demandé de faire de raconter ça sur Torah Box et puis j'arrive pas à débloquer le temps. Tov. Hein? Oui, un bruit. Faudrait fermer la porte. Qu'est-ce que j'ai bien raconté alors là? Tov, et après ma chère, on va voir. Hein? Tout je raconte. Pardon? Non, ça commence bien avant, c'est ça la question. Les grands-parents, le... J'ignore mon Gilgoul. Tov, à la question de Eric. Répétez, c'est... Alors, ce chiour est dédié à la réalisation de tous les vœux de Michael Chaim Ben Solange Mamisha et de Erika Simchatamar Bat Myriam. La question de Eric.
Alors ma question est simple, vous parlez souvent de tchouva dans la plupart de vos cours et vous-même vous êtes un chazar b'tchouva.
Un chazar b'tchouva.
Et je voulais savoir comment vous avez été amené à devenir un baal tchouva.
Bon alors la réponse, comment on est amené à devenir un baal tchouva, est la même pour tous les baal tchouva. C'est... indépendant de nos volontés, c'est clair, on peut raconter, et je pense que ça intéresse le public, c'est parce que j'ai compris, alors on va raconter dans l'histoire, mais en fin de compte, c'est clair, si on fait une introspection, quelqu'un ne fait tchouva que parce que je veux qu'il fasse tchouva. Tu entends un message, moi en tant qu'aujourd'hui, personne qui essaie de faire tchouva aux autres personnes, je peux parler à un public. Un sera sensible au discours, l'autre ne sera pas sensible. En fonction de quoi? Le discours est le même. Pourquoi un a été sensibilisé et entreprend une démarche, l'autre reste où il est? C'est clair que ça correspond à son âme, à sa sensibilité, à la vérité, à Dieu. Maintenant, qui est le vrai définisseur à quel point l'âme sera sensible? Qui a fait qu'il vienne écouter ce cours au bon moment? Qui a fait que je bouge? Avant que je vous dise, il fait pour un et pas pour un autre. Ça, on a parlé dans différents cours. Le Stapler, il a écrit qu'il y a deux choses qui peuvent être à la source d'une tchouva, chacune séparée ou les deux à la fois. Le mérite des ancêtres et une mitzvah qu'on aurait fait dans notre jeunesse, qui peut être aussi souffrance. On a vu souvent des gens qui ont souffert dans leur jeunesse faire tchouva, parce que c'est un mérite. La souffrance en elle-même, elle est... Je n'ai pas le temps d'expliquer maintenant pourquoi, mais elle a un mérite en soi. Ça, c'est la vraie réponse. Maintenant, comment c'est habillé? L'habit. Ah. Par où commencer? Je suis né en Suisse. De façon tout à fait anormale. Parce que ma mère est née à Jérusalem. Mon grand-père maternel aussi. Ma grand-mère maternelle, je crois, aussi, à Jérusalem. Sont d'origine de Boukhara, Boukharistan. C'est un peu au nord de l'Afghanistan, là-bas. Mon arrière-grand-père, s'appelait Shlomo Moussaïov, Zatzal, était un grand idéaliste. Et il était riche, lui et tous les riches de sa communauté, ont pris toute la communauté à dos de chameau, ou à dos d'âne, je ne sais pas exactement comment ils sont venus, c'était en 1870 environ, et ils se sont installés ici à Jérusalem. Ils ont créé un des premiers quartiers hors des murailles de Jérusalem. Le quartier des Boukhariens. Et ils l'ont appelé Rehovot. Rehovot, ça veut dire, c'est large. Pourquoi? D'abord, ça correspond aussi à une notion dans la Torah. Mais effectivement, à l'époque, il n'y avait que la vieille ville. Dans la vieille ville, les rues les plus larges faisaient 2 mètres. Elles ont fait des rues larges de 10 mètres. D'accord? C'était tout à fait nouveau dans la conception. Et chose extraordinaire, on peut aller jusqu'aujourd'hui à vérifier, donc dans le quartier des Boukhariens, toutes les rues, elle donne tout droit sur le temple. C'est-à-dire, quand tu regardes, tu vois le temple, tu vois au-dessus. Tu vois, aujourd'hui, on voit l'hôtel intercontinental, c'est au-dessus du Mont des Oliviers. Quand tu es dans Erhov Ezra, par exemple, là, tu regardes, zip, tu es en plein dedans. Donc, très idéaliste, un des cousins à mon arrière-grand-père a construit un palais là-bas sur Erhov Ezra, un palais pour le Mashiach, qui existe encore aujourd'hui, un très beau palais, comme ça, sur 2 étages. Aujourd'hui, il y a une école Chabad là-bas. Des gens très, très idéalistes. Et féru de Kabbalah. Mon arrière-grand-père, je ne sais pas à quel point il était un grand Talmid Chacham. Bon, il connaissait un peu. Ce n'est pas un des grands de la génération, certainement pas, mais il était riche. était bijoutier dans son métier, et il avait la plus grande bibliothèque de bouquins de Kabbalah au monde. Et le Ben Ishraï en parle, c'est lui le premier qui a édité et distribué gratuitement des Sidourim, où il y avait le Shiluv Havaya Adonut. Shiluv Havaya Adonut, c'est le Shiluv. C'est donc quand on dit le nom de Dieu, dans la prière, Baruch Atah Hashem, alors d'après la Kabbalah, il faut penser les deux noms de Dieu, celui qui est écrit, Yudke Vavke, et celui qu'on dit, Ado. Il faut le penser, je prends Yudke Vavke et je prends Ado, et je le mets comme ça, je fais une... Comment on appelle cela ?
Superposition,
d'accord. Ça fait Yud, Aleph, Hey, Daled, Vav, Nun, Hey, et puis Yud. Et le Ben Israël, c'est très important quand on dit ce nom de Dieu, de penser cela. Très dur. Et aucun sidour ne l'a marqué. Aujourd'hui, la majorité des sidourim Sfarad s'est marqué ainsi. Le premier qui a publié un sidour comme ça, vu qu'il aimait beaucoup la Kabbalah, c'était mon arrière-grand-père. Il a créé une synagogue en son nom Moussaïov. C'est la famille Moussaïov qui est encore aujourd'hui le seul shtiblach, un des seuls shtiblach Sfarad qui est une shtiblach sont d'origine polonaise d'habitude. C'est un shtiblach d'origine boukharienne Sfarad. Bon, donc, mon grand-père et ma grand-mère sont nés en Israël, de famille sioniste dans l'âme, idéaliste. Côté paternel, mon père est né à Beyrouth, il est devenu orphelin à l'âge de 11 ans. Ma grand-mère était d'origine de Yafo, elle est née à Yafa ici, à Jaffo en Israël, et puis quand les Anglais sont arrivés, alors ils ont mis dehors tous ceux qui n'avaient pas une certaine... Je ne sais plus comment c'est passé, il y avait une expulsion ici des Juifs de Yafo, elle s'est retrouvée au Liban. Elle était toute jeune et belle. Mon grand-père, il s'occupait des réfugiés, il a remarqué, il s'est marié avec elle. Et mon grand-père était soldat dans l'armée turque de la Première Guerre mondiale. Et son unité, donc l'armée turque, était en train de perdre du terrain. Alors les Turcs ont décidé, c'était une unité de juifs, de tuer tous les juifs. Ils ont mis du poison dans le puits, et tous ceux qui ont bu du puits, ils sont morts. À part deux... Mon grand-père et un autre, qui avait bu beaucoup moins que les autres, mais il était quand même touché, et mon père me raconte que toute sa vie, il était très malade du vent, tout ça, et puis, bon, il était malade toute sa vie, puis un jour, il s'est fait opérer, évidemment, à l'époque, ça ne marchait pas très bien, et décédé quand mon père avait 11 ans. Mon père, ayant 14 ans, c'était en 1951, c'était les débuts de l'État d'Israël, les mouvements sionistes, machin, il a laissé une lettre à sa mère la nuit, bye bye, je pars, je vais en Israël, hop, il est parti en douce au milieu de la nuit. Tout ça, je raconte, parce que dans la famille, on est des fervents sionistes... voilà. On sait que je nais en Suisse. Alors, mon père a rencontré ma mère il y a un certain temps, 51 ans, en 1959, ici à Jérusalem, et mon grand-père habitait à l'époque à Genève. Et les invités pour deux semaines, lune de miel, honeymoon, à Genève. Bon, ils sont partis à Genève, et puis, comme tous les jeunes couples israéliens, ils ont vu qu'à Genève, on peut faire un peu d'argent. Moi, on reste 6 mois, histoire de faire un peu d'argent avant de rentrer en Israël. Après 6 mois, bon, allez, encore 6 mois. Après un an, ça va un peu. Je suis déjà, ma mère est enceinte de moi-même, j'ai le fils aîné. Bon, quand tu vas accoucher, on rentre en Israël, pas question d'élever nos enfants ici en Suisse. Bon, le gosse, il est né, les affaires vont bien, donc on reste encore un an. Bon, quand, ma mère retombe enceinte une deuxième fois, bon, quand le deuxième va naître, pas question qu'on ait deux enfants ici en Suisse, dans ce pays, on rentre en Israël. Le deuxième enfant est né. Les affaires continuent très bien, donc on continue. Et depuis que j'ai une conscience, j'ai toujours entendu, l'année prochaine, c'est que tu rentres à l'école, au GAN, au jardin, à la maternelle, là, on rentre en Israël. Après, tu rentres en primaire, en Israël. Dès que tu auras 10 ans en Israël, ta bar mitzvah, on rentre en Israël. Bon, moi j'étais éduqué, comme quoi, notre pays c'était Israël. Ma mère m'a raconté, j'ai oublié ça, c'était dans ma jeunesse, ma tendre jeunesse, on avait appris à l'école ou sur Guillaume Tell ou sur un autre héros suisse, et je suis rentré à la maison, j'ai dit, je suis fier d'être suisse. Baruch Hashem, je ne disais pas ça à l'époque. Bon, on a des héros suisses comme ça. Et mon père m'a flanqué une tarte, paraît-il. Je ne me souviens plus. Il m'a dit, t'es pas suisse, t'es israélien. Bon, je vais en Israël, j'étais pas un israélien, je parlais à peine la langue, j'étais un suisse, d'accord. Donc, j'avais déjà un terrain de prédilection, on va dire, de remise en question identitaire. Qui suis-je alors? Je suis un Israélien, un Suisse, qu'est-ce que je suis? Juif, c'est vrai que j'étais juif, j'étais le seul juif dans ma classe, avec les goïms aussi. Ça aussi, c'est une question qui... Donc, assez rapidement, dès ma jeunesse, je posais des questions existentielles. Pourquoi on vit? Quel est le but? Oui.
Pourquoi est-ce que tes parents sont juifs?
Alors, très très bonne question. Ma mère m'autorise à raconter son histoire. Un grand kiddush Hashem là-dedans. Vient d'une famille hyper, enfin, on va dire religieuse, très religieuse. Elle est née à côté de Mea Shearim, Rav Strauss, d'accord. C'est vraiment en face du Badatz. Mais mon grand-père éduquait à l'ancienne, comme beaucoup de gens. C'était un bon monsieur, mais bon, ce n'était pas adapté, surtout qu'en Israël, il y avait un mouvement anti-religieux terrible. Et ma mère et presque tous les frères et sœurs, ils avaient 14 frères et sœurs, ils ont tous tout plaqué. Certains sont devenus anti-religieux, dont ma mère. On peut dire leader des anti-religieux, c'était ma mère. Anti-religieuse, mais pas quoi, à mort. Quand je suis né, ils étaient pratiquants. C'est Shabbat, trucs comme ça, cacheroute, tout. Puis un beau jour, on a eu ras-le-bol, elle a tout plaqué. Mais elle est plaquée, elle est partie, j'avais environ 6-7 ans, elle est partie à l'opposé. Et dans la rue, voyant religieuse, c'était l'insulte. La haine, d'accord, terrible. Quand vers l'âge de 17 ans, 18 ans, je commençais à... C'était un peu plus tard déjà. Bon, alors, je me faisais des questions existentielles, bon, puis j'étais bien en Suisse, tout allait bien, mais je me suis dit, il faut quand même que j'aille vérifier c'est quoi Israël. Et puis, Genève, il y a beaucoup de riches. Et j'habitais donc à Genève, je fréquentais la communauté qui était riche. Je crois que on ne se trompe pas en disant qu'un des endroits de la densité de millionnaires ou milliardaires au mètre carré la plus élevée au monde doit être à Genève, entre autres. Et c'était d'un ennuyant total. Mais c'est clair, moi j'avais un futur tracé. Mon père était millionnaire, j'ai un copain qui était le fils de l'associé de mon père, dont la société est aussi millionnaire. Maintenant, il est multimillionnaire aussi. Voilà, c'est voilà. Alors j'aurais eu 5 voitures, 3 yachts et 20 maîtresses. Non, mais c'est clair, c'est-à-dire, il ne faut pas rêver, c'est quoi être riche? Quelqu'un qui est riche, hors de la Torah, qu'est-ce qu'il a? L'argent et les femmes, ça va ensemble, il faut savoir, voilà. Donc la frime, les machins, les trucs, j'ai eu la maturité suisse, parce qu'en Suisse, c'est un peu plus lent qu'en France, donc ça prend du temps d'arriver à faire le bac, c'est à l'âge de 19 ans, c'est pas 18 ans, ils sont un peu plus lents. J'ai eu la maturité suisse, c'était fin juin, 30 juin je crois, le 30 juin 1979, c'était 1979, d'accord. 2 jours plus tard, j'étais en Israël. Ça fera 31 ans aujourd'hui et quelques mois, Baruch HaShem. J'étais en Israël, ouf. Et tout de suite j'ai compris, voilà, moi c'est fini la Suisse, je reste en Israël. Je voulais vérifier aussi c'est quoi la religion. On m'a dit, il y avait un truc qui s'appelle Mayanot, c'était Manitou à l'époque. C'est un truc, un séminaire, garçons et filles mélangés, dans le même bâtiment. Premier étage, garçons, étage du dessus, filles. Les repas ensemble, évidemment. La nuit, il n'y a pas de madrir. Bon, évidemment, tout le monde comprend comment ça finit. Et Baruch Hashem, Dieu m'a aimé. Je crois que sur 30 ans que Mayanot a existé, 2 semaines avant que la session commence, ils m'appellent et me disent, on annule la session. La seule session qui était annulée en 30 ans, c'était la mienne. Il n'y avait pas un équilibre, il n'y avait pas suffisamment de garçons pour trop de filles. Et il faut qu'elle soit équilibrée, bien sûr. Donc je me retrouve comme ça 2 semaines avant le début de la session, je ne sais pas quoi faire. Bon, je vais aller faire une mechina à la fac. Moi, je voulais apprendre l'hébreu surtout. Bon, je vais là-bas. Mes parents sont israéliens. Ma mère ne parlait pas un mot d'hébreu de français quand je suis né. Donc j'avais l'hébreu dans le sang. En plus, j'allais à des cours d'hébreu. Donc j'arrive là-bas, j'avais un très bon niveau. Anglais. J'ai un bon niveau, parce qu'en Suisse, ils sont bons en anglais. Match, j'ai un bon niveau. Alors, ils m'ont dit, écoutez, au niveau de Mechina, vous avez très peu d'heures de cours. Allez déjà en première année, dans ce que vous voulez. Je suis allé en philo. Philo, j'ai fait aussi des cours de Talmud. Premier cours de Talmud que j'ai fait, là-bas, à la fac. Alors, j'avais à droite un curé qui m'a sauvé un grand sourire, très sympa. Au milieu de l'année, j'ai commencé à porter la kippa. Il m'a vu ça, dès ce jour-là, c'est le froid total. Après, j'ai compris que c'était un missionnaire, d'accord. Lui, il avait une proie de choix... Un bon juif qui vient comme ça à la fac, bon, j'ai mis la kippa, il y avait des arabes, des chinois, enfin c'est à la fac, quoi. Le Talmud, tout le monde apprend le Talmud. Cours de Kabbalah, il y avait à la fac, comme quoi Rabbeinu Ari, il était bipolaire, manaco-dépressif, parce que c'est marqué dans Rabbeinu Ari que des fois il était très heureux, des fois il rentrait comme ça en tristesse, bon, il voyait tout ce qui allait arriver, toute la Shoah, les choses pareilles. Donc déjà c'est un malade, d'accord, bon, c'est à la fac. Mais néanmoins, Baruch HaShem, j'ai suivi des cours de Torah en externe. Et au bout d'un an, je suis arrivé à 3 solutions. 1, la Torah est vraie, donc il faut être religieux. 2, je reste en Israël. 3, vu que je suis israélien, donc je dois faire l'armée. Je n'ai pas le choix, je dois faire l'armée. J'aurais pu rentrer en yeshiva et pas faire l'armée, etc. Je demandais à un rabbin. C'était un rabbin pas la même tendance que nous avons, et qui a dit, fais les deux, fais armée et Torah. Bon, moi je vois, je vais dans une yeshiva comme ça, je suis allé à yeshiva à côté, où ils font esder, où ils font les deux choses à la fois, et l'armée, je vois tous les gens habillés en noir et blanc. Moi je connaissais rien, j'ai les cheveux longs, enfin tout à côté de la plaque, je connaissais rien. J'ai dit, c'est pas pour moi ce machin. Bon, alors je fais l'armée normale. Je fais l'année normale, vu que je suis arrivé officiellement. J'avais 19 ans quand je suis arrivé, mais c'était une nouvelle loi qui donnait à l'époque, on pouvait faire un essai pour les anciens Israéliens à venir un an en Israël. Et après, s'ils décident de venir, alors c'est comme s'ils sont venus à l'âge de 20 ans, c'est après l'année. Donc officiellement, vu que je suis arrivé à l'âge de 20 ans, je vais faire que 2 ans d'armée. Je rentre à l'armée et je pratique rien. Mais je sais que la Torah est vraie, qu'un jour je serai religieux. Pourquoi j'ai fait comme ça? Je me suis dit, je n'arriverai pas à les trois à la fois. Faire l'aliyah, ce n'est pas facile. Faire tchouva, ce n'est pas facile. Faire l'armée, ce n'est pas facile. Les trois à la fois, je ne tiendrai pas. Donc je vais aller d'abord, la phase de, je rentre en Israël. Après, physiquement, je deviens israélien comme tout le monde, je fais l'armée. Puis après, et après, machin, club de Dieu, je commencerai à être religieux. Oui. Ah, comment est-ce que c'est vrai? C'est très intéressant. Alors, il y a deux choses qui m'ont... Bon, d'abord, j'allais à des cours qui... J'avais un truc spécial. Quand j'allais à ces cours-là, je ressortais, je me sentais sur un nuage. Ça me touchait énormément. Ça, c'est la première chose. Secondo, au niveau rationnel, il y a deux choses qui m'ont extrêmement touché. Notre histoire. Comment, à Israël, et c'est un truc que je répète encore jusqu'à aujourd'hui, c'est mon cheval de bataille, comment ce peuple... Je ne croyais même pas en Dieu, hein. Je ne sais pas si Dieu existait. Mais je ne comprenais pas comment ça se fait que le peuple d'Israël réussit pendant 4000 ans à survivre, dont 2000 ans en exil, et de façon systématique, on veut le détruire. Et il survit, et mieux, après il revient sur sa terre. Phénoménal. Deuxième truc, c'est un truc plutôt philo, ça s'appelle l'altérité. Il y a un truc en philo qui s'appelle altérité, ça vient du mot alter en latin qui signifie autre, pour nous dire que Dieu, il est autre. C'est-à-dire que tu n'as aucune possibilité dans ton esprit, toi, fini, de saisir une chose qui est infinie, absolue. L'absolu, quand il vient dans ma tête, ça fait un grand brouhaha, ce n'est pas possible. Donc, par définition, chaque Torah, c'est-à-dire chaque Bible, chaque religion, qui est cohérente de A à Z, et qui se veut être l'expression de l'absolu, est fausse. Elle ne peut pas être absolue, elle ne peut pas être la vraie vérité absolue. Parce que l'absolu, quand il vient sur Terre, il est incohérent. À part une Torah, notre Torah, qui dit dans Yeruvim page 13, Beth Hillel disent A, Beth Shammai disent moins A. Qui a raison? Les deux. Les deux sont paroles du Dieu vivant. Dieu vivant, ça veut dire l'absolu vivant. C'est-à-dire c'est interactif. Il y a dans la vérité deux choses qui sont contraires. Pour toi, être humain, tu ne peux pas comprendre. Dans la réalité absolue, oui. Ah, ce n'est pas une preuve que c'est vrai. Ce n'est pas une preuve que c'était vrai, mais c'est une preuve que ce n'est pas faux. Il n'y a pas de preuve que c'est faux. Il n'y a pas de preuve que tout le reste, c'était faux. Chaque théorie cohérente, par définition, est fausse parce qu'elle ne peut pas être absolue. Elle est humaine. Humaine, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux la vraie vérité. Moi, j'étais un torturé de la vérité. Je me souviens, dans ma jeunesse, 17-18 ans, je tournais dans mon lit, des fois, des nuits entières, sans dormir. Pourquoi on vit? Quoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe? J'étais torturé assez tôt. Dieu m'a beaucoup protégé. J'étais le seul garçon dans une classe de filles les plus belles du collège. Et Baruch HaShem, j'ai été sauvé. J'aurais pu tomber dans le panneau. Bon, je me sentais toujours un peu différent. Hein. Juif, je ne l'ai pas pratiquant, mais... Eux, c'est eux, nous, c'est nous. Mais c'est clair que j'ai été sauvé. Ce n'est pas tout à fait anormal. Tof, je rentre à l'armée, très mashkian, très motivé. Et j'ai commencé, un beau jour, à plus rouler en voiture Shabbat, c'est tout. Non, non, c'était comme ça. Et je me souviens que je suis rentré à Genève une fois... Et là, mes parents étaient tous invités, ont invité la famille à aller manger chez des amis en voiture Shabbat. Et j'ai dit à ma mère, là, c'était terrible, ça a été un boom supersonique. Elle m'a fait jurer que jamais je serais chômeur Shabbat. Et je lui ai dit, sincèrement, j'ai accepté. Rien, non, rien, moi, religieux, jamais. Elle ne supportait pas ça.
Vous avez dit qu'elle était pratiquante?
Hein? Non, mais j'ai dit après qu'elle a tout plaqué. Elle me permet de raconter ça, elle me permet de raconter tout, parce que pour finir, elle a quand même fait Tchouva, donc il y a plus de Kiddush Hashem. Et puis, l'armée, j'étais très motivé là-bas. Très motivé, et d'un côté, ce que j'avais à l'intérieur, le fait de vouloir faire un jour Tchouva, hein, c'était très caché. Chez beaucoup de balais Tchouva, hein, la réflexion, elle est très interne, ils n'en parlent pas beaucoup. Et ça mûrit, puis un beau jour, tac, ça éclot. Et les gens sont très surpris comment... En deux secondes, c'est comme les fleurs. Les fleurs, d'accord, le bourgeon, il grossit, tac, ça, entre le mûrissement et l'éclosion, c'est extrêmement rapide. L'éclosion est extrêmement rapide. Donc je jouais une sorte de double jeu, où je savais que j'étais religieux déjà à mort dans le corps, mais extérieurement presque rien. Et ça, je dis à tous ceux qui sont dans ces périodes où ils sont encore... ils savent déjà que c'est vrai, mais ils sont encore habillés, on va dire, et ils ne sont pas trop pratiquants, habillés encore comme un non-religieux et pas trop pratiquants. C'est le même moment aussi pour pouvoir en placer des bons points chez l'entourage, parce que tu n'es pas encore brûlé, on ne t'a pas pris encore pour un... Ouais, ça y est, lui, c'est fini, il a fait tchouva, on lui a fait un bourrage de crâne, il est mort, d'accord. Quand tu es déjà affiché religieux, pour eux, tu es mort, voilà. Tu n'as plus rien à dire, on t'a fait un bourrage de crâne, tu n'as plus rien à dire. Là, tu es encore dans leur camp. Et tu peux, en discussion, commencer à en placer beaucoup. Je me souviens à l'époque, à l'armée, il y avait eu les élections en Israël. Et tout le monde avait des discussions terribles. Il y avait deux grands partis, Aleph et Bet, d'accord. Je sais pas, c'est de gauche, hein, la droite, Aleph et Bet, grande bagarre. Moi, je suis allé, j'ai voté Gimel. Gimel, c'est le parti orthodoxe. Bon, mais je n'avais rien d'un orthodoxe. Bon, puis je n'ai rien dit à personne. Quand même, on a dit quitte, j'ai dit Gimel. En cinq minutes, tout le bataillon savait que j'avais voté Gimel, d'accord. Et je n'en comprenais pas. Je me souviens, on était encore au Sinaï, le Sinaï était encore dans les mains d'Israël. Donc on passait des nuits comme ça à faire la garde, et un copain me dit, mais pourquoi? Je lui dis, écoute, c'est clair que à Israël, nous sommes pas, le peuple d'Israël n'est pas allé comme ça, on est à la suite d'un peuple qui a 3-4 000 ans, qui a tenu grâce au monde religieux. Mais alors pourquoi tu n'es pas religieux? Je n'ai absolument rien à voir, moi je ne suis pas religieux, mais je sais que ça c'est la vérité. Bon, je ne vais pas lui dire qu'un beau jour je pense être religieux. Mais ils ne comprenaient pas. Mais néanmoins, on peut commencer à marquer et leur faire passer le message. Écoute, tu es israélien, mais tu es juif avant tout. Et juif, ça a passé de 3-4 000 ans. J'avais toujours mes tefilines dans le kit bag. Dans le, un grand sac comme ça dans lequel tu as toutes tes affaires à l'armée, d'accord? Tout au fond, je ne mettais pas les tefilines, mais j'avais avec moi. C'était un truc comme ça. C'est, voilà. Un jour, je me souviens que le MP, le chef de l'unité, il fait un mistar, il fait un... contrôle, d'accord. Tout le monde ouvre les sacs, il regarde tout ce qu'il y a dedans. Il voit Tfilin. Il dit, t'es religieux? Je dis, non. Ah, pourquoi t'es Tfilin? Ben, je suis juif. Bang, je suis juif. On peut être sans être religieux, je suis juif. Tfilin fait partie des bases du judaïsme. Bon, après à l'armée, au bon moment, tu deviens gradé, tu as plus de temps. Et il y a un petit truc qui a fait, un petit déclic. Un jour, je suis rentré à la maison pour le week-end. Je rentre à la maison, là, j'ai dit, je rentre à l'armée. Je commence à tout pratiquer. Et là, j'ai eu des épreuves les plus dures de ma vie. La plus dure, peut-être. Il y en a eu deux. C'est rentrer à l'échiva et celle-là. J'arrive à la base. Maintenant, on était dans le Segel. Segel, c'est l'unité des commandants. D'accord? On est dans la même tente, on est en vie ensemble, on se connaît par cœur. D'accord? Et eux, c'est des, comme beaucoup d'Israéliens moyens, des anti-religieux de première. Il y en a un, il m'a dit, son hobby quand il rentre le week-end, t'as rien, t'as un week-end, j'étais tankiste, donc t'as un week-end sur trois. On sort très mal. Une fois, toutes trois semaines, tu rentres à la maison, tu arrives esquinté, tu dors la moitié du temps, il faut faire la lessive, tout ça, tu n'attends de rien. Lui, il prenait un seau avec une éponge et un savon, il allait nettoyer un grand panneau qu'il y avait qui donne sur la route, non contre la kfiya datit, comment on traduit ça en français, non contre les religieux. Voilà, d'accord. C'était son kiff du Shabbat. Bon, c'est ce que j'avais, les copains que j'avais été dans l'équipe. Alors je rentre à la base, toute la roue, je me dis, comment je vais leur dire ça? Ça va être terrible. J'avais la kippa, une petite kippa sruga, comme ça, brodée, sous la kumta, sous le béret noir. Le béret, c'est quand tu sors, c'est des habits de sortie, uniforme de sortie. Quand tu as un truc de travail pour se battre, tout ça, t'as une casquette, on habille les habits A et les habits B. Habit A, c'est pour les sorties, habit B pour normal. Bon, dès que tu rentres à la base, tu rentres et tu ranges tes habits A, tu mets tes habits B. Maintenant, dans la tente, bon, je sors, je change le pantalon, je change la chemise, et je sors avec mon béret. Et j'arrive pas à l'enlever, parce que dessous, il y a la kippa. Et tous les copains sont là dans la tente. Un quart d'heure passe, une demi-heure, une heure, deux heures. J'ai l'air idiot avec mon béret sur la tête encore. Bon, j'ai pris mon courage de main, je dis, écoutez, les amis, voilà, une annonce à vous faire. Voilà. J'ai décidé de faire tchouva, et tac, j'ai enlevé le béret. C'était terriblement dur. Un, il a rigolé un peu comme ça, les restes, ils ont respecté. Voilà. Donc ce fut déjà officiel à ce moment-là. C'était 3 semaines avant la guerre du Liban 82. Après la guerre éclatée, j'ai senti carrément 2 anges qui m'ont pris comme ça par les épaules et m'ont fait traverser toute la guerre. J'étais bête. Bête. Pas possible comme j'étais bête. Je raconte parce que les gens, ils aiment bien ces histoires. Ça n'a aucun choix, mais c'est les trucs de l'armée. Les gens, ils écoutent ça avec des yeux écarquillés. Je voulais voir action, de l'action. Comme on est entraîné sans cesse à vouloir à se battre. Quand tu vois vraiment la vraie bataille, t'as même envie qu'il y ait... On était idiots, d'accord. T'as envie même qu'il y ait du combat, histoire de voir comment ça fait. On était en retrait, comme ça, derrière une petite colline. Et il y avait un village... qu'on devait attaquer, que l'armée attaquait, et il y avait les Skyhawks, les bombardiers israéliens qui bombardaient les fortifications. Moi j'ai une jumelle, je suis le commandant, je monte sur le haut de la colline et je regarde avec la jumelle, on voit les avions qui attaquent, les bombes qui sautent, qui remontent en live, quoi, c'est intéressant. Puis on voit les Golanis qui viennent comme ça cachés, qui sont en train de. Il y avait 2 collines, et la colline là-bas, la troisième au centre qu'ils devaient conquérir, ils rentraient comme ça, là, tata, pour aller. Tu vois, voilà, en vrai. Mais il y a un truc à pas faire, se mettre sur une colline comme ça en haut, c'est comme un feu rouge allumé, d'accord. Au bout d'un moment, je descends, je fais 3 mètres, j'entends boum, énorme. Je tombe par terre, plein de terre qui me tombe dessus, l'endroit où j'étais dans un cratère. J'ai échappé 2 secondes. Je faisais encore 2 secondes là-bas, c'était pas moi qui vous parlais ici. Et beaucoup encore d'histoires de ce genre-là. Donc je sais que j'étais sauvé très très souvent. Il y a beaucoup d'autres histoires, Baruch HaShem. Fini la guerre, il m'en rajoute encore 3 mois. Au coup de la guerre, 3 mois, donc je fais 2 ans et un quart de service. Je quitte l'armée. Et je vais à Yeshiva. Je voulais faire fac et Yeshiva. Le rav là-bas, il me dit, c'est dommage, je ne ferai que de la Yeshiva, c'est mieux. Je lui dis, non. Il dit, bon, ok, retourne chez Shalom Kevodo, il faut respecter la vie de chacun, fais ce que tu veux. Je sors de là-bas, puis je décide, il a raison après tout. Allez, je fais que Yeshiva. Bon, je suis allé là-bas une journée, et il y avait des cours de Ashkafa, pensée juive. Et moi, là, Ashkafa, j'en ai reçu toute ma vie, j'avais comme ça. C'est clair, moi je voulais maintenant Steigen. Donne-moi Gemara, tac. En attendant, mon oncle est décédé, il y a eu 7 jours de deuil. Un rabbin m'a dit, tu veux, va essayer une autre yeshiva. Mais Torah Bemouna, c'est une Torah c'est une yeshiva de Baal Tshuva, Haredit, orthodoxe. La Nala, c'était Belz, mais c'était orthodoxe lituanien. En fait, c'était là-bas qu'il y avait beaucoup de grands conférenciers israéliens, le bastion des conférenciers israéliens dans les séminaires. J'arrive là-bas. Alors aussi l'histoire, là, c'est ma deuxième grande épreuve. J'arrive là-bas un matin. Bon, il fallait monter au premier étage. Et j'avais une peur terrible. Parce qu'on se fait des tas d'idées. On se rentre dans un monde maintenant, et Shiva, c'est noir. Ça fait très très peur. Je monte une marche, je sens que c'est dur. Deuxième marche, troisième marche, où j'entends un cri en yiddish. J'étais glacé sur place, demi-tour, back home. Je rentre. Entre à la maison, je me dis, il y a 4 mois, tu étais au Liban, dans la région infestée de commandos syriens hyper dangereux, tu as survécu. Là, parmi tes frères, à Jérusalem, tu as peur. C'est terrible. Ok, tu rentres, tu te bouches le nez 15 secondes, et tu ressors, mais reste pas à l'extérieur, au moins rentre dedans. Je repars l'après-midi. Et de nouveau, je monte une marche, 2 marches, 3 marches. J'arrive en haut, où je vois un type en jeans souriant. Un type normal, d'accord. Et voilà, Baruch HaShem. Donc là, je suis rentré à cette yeshiva. Et bon, voilà, je vous raconte une belle histoire qu'il y a eu durant la guerre. C'était sympa. Il y avait dans toute l'unité qu'on était, il y avait 2 religieux. Un et moi. Moi, j'étais très motivé à faire, mais je ne connaissais rien. Lui, il connaissait un peu comme ça. La guerre a commencé le dimanche à 11h. Et vendredi midi, il y a eu un cessez-le-feu. Nous étions en première ligne. On était très proche de l'autostrade Beyrouth-Damas. Et là, il faut faire kiddush, il n'y a pas de vin. Il n'y a pas de vin. On est en première ligne, on est en guerre, il n'y a pas de vin. Alors comment tu dis ? On fait sur du pain. Alors, le type il me dit, non, on peut faire sur du pain. lui dit en tant que Talmid Chacham, ouais, mais il faut un verre, qui touche, il faut un verre. Alors on se retrouve maintenant, on était dans le tank, dans un truc blindé comme ça, avec du pain, avec un verre. Alors lui, moi je lui dis, il faut le verre, il faut le pain. Okay, je ne connais pas le truc du pain, mais moi je sais qu'il faut un verre pour qu'il douche. Qu'est-ce qu'on fait quand un verre, hein, t'as dit, bah, alors, on ne va pas mettre le pain dans le verre, ça fait idiot. Alors il a rempli le verre d'eau, il a coupé un petit morceau de pain, il a mis le pain dans le verre d'eau. Il a fait les kidouches comme ça, sur le pain trempé dans le verre d'eau. Quel bracha on fait, chez Akol ou à Motsi? Je ne sais plus ce qu'il a fait, je crois qu'il l'a fait chez Akol ou à Motsi, il a pris, hop, il a mangé le pain. Bon, c'est un truc complètement tordu à l'pi halakha, mais bediavad, c'est valable. Si tu fais chez Akol sur du pain, c'est valable, il a encore torté de la main, bon, l'pi halakha, ça peut être valable. Voilà. En tout cas, je ne sais pas si c'est valable et puis elle l'a complètement, mais je suis convaincu qu'à Jouboukou, il a vu comme ça deux petits juifs dans un petit blindé comme ça, en paumé au Liban, qui essaient de faire un kidouche comme il faut, avec le peu de notions qu'ils ont. Voilà, alors quoi dire encore sur la tchouva? Bon, là, j'y vais, c'était, je suis arrivé, on m'a mis en cours directement, il y avait un Ben Menel, il me dit, tu viens d'un séminaire? Je lui dis, c'est quoi un séminaire? Pourquoi on existait un truc pareil? C'était le premier séminaire à Achima à l'époque, et en fait c'était le bastion des séminaires. Donc là-bas j'ai eu comme prof de Gemara Rav Neugirshal, qui est un super grand conférencier, Ben Mena, c'est lui qui a l'origine tout moment de la Tshuva. Shalom Serbernik, c'est un monsieur qui était candidat au prix Nobel de chimie. Une grosse tête. Comment il gagnait sa vie? En faisant des tournois d'échecs. Il faisait plusieurs tournois en même temps. Là il y avait des clubs comme ça. Et il jouait pour de l'argent, et il jouait là, il fait plusieurs parties, et il savait tenir tête, c'était une grosse tête énorme. Et un beau jour, il a fait tchouva. Comment il a fait tchouva? Un jour, il faisait la queue à la seule boucherie qu'il y avait en Israël à l'époque, qui vendait du porc. Et vu que c'est la seule boucherie qui vendait du porc, il y avait une grande queue, donc il faisait la queue. Puis, du coup, il a pensé à son grand-père. Son grand-père est mort dans la Shoah, comment? Son grand-père était religieux, il avait la barbe, les péotes, et c'était vers la fin de la guerre, déjà, c'était à Auschwitz, ou un des camps de ce type. On entend déjà les canons des Russes à 10 km. Donc les nazis savent que c'est mort. Ils ont sorti quelques juifs, dont le grand-père Serbernik, et leur ont donné des ciseaux. Coupez vos barbes. C'est permis de couper une barbe, aucun problème. Par contre, il est marqué que s'il y a une Xerat Shmad, s'il y a un décret d'anéantissement contre le peuple juif, on veut enlever leur Torah. Les goïms font cela contre la Torah d'Israël. Ce n'est pas qu'ils t'en veulent à toi, ils en veulent à la Torah d'Israël. Alors c'est marqué que même pour un lacet, que portent les juifs comme un juif et pas comme un goy, il faut se faire tuer. Le grand-père Serbernik s'est dit, pourquoi il veut que j'enlève la barbe? C'est pas contre moi, c'est contre la Torah d'Israël. J'enlève pas. Il a refusé. Et ils ont déchiré sa... Il marche même, ils ont déchiré sa... Ils ont tiré sa barbe avec les bottes, avec les poings, et il est mort comme ça. Il s'est dit, quoi? Moi, je fais de la queue maintenant pour manger du porc en Israël, alors que mon grand-père... Pour une barbe, c'est pas possible, c'est pas cohérent. Et il a commencé à chercher, il a fait tchouva, et il est devenu un des plus grands conférenciers, c'est lui qui a monté à Rachim. Je raconte l'histoire de Svinbal, dans la guerre de Kippour, je ne veux pas raconter ça. Ils sont deux, il y avait Shlomo Serbernik et Svinbal. Les deux, Svinbal c'était un physicien. Donc le juif, c'est le physicien, ils ont commencé à mettre au point comme ça les preuves scientifiques, comme quoi l'évolution c'est faux, les preuves archéologiques, tout ce qu'on peut avoir, la méthode de parler le langage occidental, pour amener les gens à la Torah. Allez, arrêtez de partir de l'axiome « Dieu a donné la Torah au Mont Sinaï et de là tout découle » et dit « Qui me dit que c'est vrai? Viens, je te prouve maintenant. Allez avec des preuves. » C'est donc la méthode qu'après nous on a repris, et on a en francophone, en espagnol, en anglais. Aujourd'hui, la méthode, aujourd'hui même l'islam, mais comment ça faire comme ça, d'accord? Utiliser la façon scientifique et cartésienne pour prouver... La vérité de la Torah, ou dans le cas occurrent, de l'islam. Enfin, la vérité, oui, entre guillemets. Et puis, tout à coup, j'ai vu qu'on pouvait... Moi, je fais toujours pas des trucs très personnels. C'est donc un truc philo, l'histoire d'islam, mais les preuves, je connaissais pas les vraies preuves. Je vois qu'il y a des preuves. C'était des preuves, par rapport à ce qu'aujourd'hui, c'était du minable de minable. Le plus grand truc, le sommet qu'il y avait dans le séminaire, c'était qu'on voit le mot Germamia dans la Gemara Megillah. Sans toute la suite qu'il y a aujourd'hui, que Germamia, marqué Germamia, c'est marqué dans le traité Megillah, que Germamia, il y a un danger qui va détruire le monde entier. C'était le top de tous les séminaires. Les gens se jouaient grâce à ça. Mais rien que ça, j'ai vu, ça m'a retourné. Hein? J'ai pas compris.
C'est la référence aujourd'hui aussi.
Oui, mais le coup gamin aujourd'hui, c'est rien à voir. C'est les trucs SA, Adolf Hitler, la croix gammée, les trucs, c'est autre chose. Ça parle de rien, rien. Germania, c'est marqué, voilà, que dans Gemara, il y a un danger, Germania voudra détruire le monde entier, c'est tout. Qui sait quoi, c'est comment c'est, pas plus. Ma mère, bon, je me marie environ, donc je suis rentré vers le mois d'octobre à l'Echiva, juin, je me marie avec une, avec ma femme, qui est... mais une jeune fille qui était de Genève aussi, donc on se connaissait comme ça, et... Quelqu'un m'a proposé un chidour, je lui ai dit non, je ne suis pas prêt pour le chidour. Il m'a dit, si moi j'attendais d'être prêt pour le chidour, je ne serais toujours pas marié. Il avait 50 ans et plus, donc je me suis marié. Et les beaux-parents, donc mes parents. Ma mère, c'était une Israélienne très dans le... D'accord. Donc elle attaquait toujours. Un jour, elle m'a dit, tu dois aller voir un psy, psychiatre. Tu es malade, tu as les TOC. TOC, c'est les tics... nerveux, trouble, obsessionnel, compulsif. C'est ça? Tu te laves les mains toujours, avant le repas. Pendant le repas, entre le poisson et la viande. À la fin du repas, magmachonim. Si on se gratte, il faut laver les mains. Tu mets un truc dans l'oreille, il faut laver les mains. Toutes ces choses, il faut laver les mains. Tu gardes dedans, il faut laver les mains. C'est clair, tu as un trouble nerveux. Comment tu appelles ça? Obsessionnel, compulsif. On va voir un psy. Je dis, je suis d'accord, mais tu vas au séminaire. C'est le premier séminaire à Achim, ça a duré une semaine. Rien qu'en hébreu. Et gros miracle, elle a accepté. Pas pour aller au séminaire, pour que j'aille voir le psy. Le psy, je ne vais pas aller le voir jamais, bon, prochain. Je lui ai dit, d'abord, tu vas au séminaire. Dimanche, je ne suis pas allé au séminaire. Je lui ai dit, elle va incendier tout le monde. Elle avait peur de rien. Elle va incendier tout le monde, c'est terrible. Je vois le stapler, je lui ai une bracha. Et dimanche soir, j'arrive là-bas, je vois, je rentre dans la salle de conférence, je vois ma mère en train d'écouter le rabbin parler. Ça veut dire, les poules rondées dans, c'est une expression suisse, ma chère, il est là. J'appelle ma femme, elle s'est mise à pleurer au téléphone. Quand je dis que ma mère écoutait un rabbin parler, ma femme s'est mise à pleurer au téléphone. C'est pas possible. Mercredi, c'était long, c'était pas deux semaines qu'on fait, nous, deux jours, c'était une semaine. Mercredi, ma mère éclate en sanglots, deux jours, elle pleure non-stop. Et Baruch HaShem a commencé à faire tchouva, aujourd'hui elle porte la perruque, Baruch HaShem... La totale. Et cette semaine, il y a exactement quel jour on est mercredi, mardi passé, il y a 8 jours, mon père et ma mère ont fait leur aliya de nouveau, back home, en Israël, après 51 ans d'absence en Suisse, la boucle est bouclée, ils reviennent en Israël, et dans la Torah. Voilà, alors quoi encore, qu'est-ce qu'on peut raconter encore à ce sujet? Oui.
Au niveau justement de votre teshuva,
Alors je dis d'abord pendant un an je roulais pas en voiture Shabbat, mais j'allumais encore des bravo le Tanou Arabim, faut pas raconter ces choses là. Bon, mais j'étais pas le reste je ne faisais pas. Baruch HaShem, au niveau défi, j'étais pas mal conservé, Dieu m'a protégé. Mais dès que j'ai su, j'ai tout fait. Je me souviens que la prophète Shem Bracha, je comprenais pas Baruch Ata HaShem. Qui, quoi, comment, donc où ça passait pas du tout. Mais je faisais, et à fond, c'est tout ce que j'ai su, j'ai fait. Une fois, je me suis levé le matin, parce que j'étais déjà religieux, il fallait faire un éclat de daim, il n'y avait pas d'eau, le robinet était à 500 mètres. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le droit d'aller d'un coup. À Hadi, il faut s'arrêter tous les moins de 2 mètres. Alors je partais comme ça, comme un crétin fini, d'accord, tu le vois, le type au milieu du campement, comme ça, qui fait 1 mètre et demi, il s'arrête. 1 mètre et demi, il s'arrête. 1 mètre et demi. Voilà, j'étais... Baruch HaShem, on était... On a compris que c'était important, il fallait le faire. Et je passais, je me souviens, avec un plaisir énorme, des heures, sur 3 mots de Rashi. 3 mots de Rashi, je prends le dictionnaire, j'ouvrais sans cesse chaque mot dans le dictionnaire, c'est de l'arméen, je comprenais rien. Alors, tu as 3 mots. Alors, il y a une virgule. Elle est avant, après le premier ou après le deuxième? C'est une question ou c'est une réponse? C'était, on se cassait la tête des heures. Ça, je vous dis ça pour un grand moussa, faut pas croire. Et c'est comme ça qu'on grandit en Torah, il faut... Voilà. Après, depuis, donc, j'ai toujours étudié. Et un beau jour, j'avais déjà mon fils, que vous connaissez ici, qui vient tous les jours, il avait 4 ans. Il fallait le faire rentrer au Talmud Torah. Étant Sfarad, en Israël, un Sfarad, c'est très dur de le mettre dans le Talmud Torah. Bon, les bons Talmud Torah sont Ashkenaz. Les Sfarad n'étaient pas très bons. Donc c'était impossible de le mettre, j'étais Sfarad. De plus, Baal Tshuva, De plus, venant d'étrangers. Toutes les mauvaises qualités pour être acceptées dans un bon Talmud Torah Ashkenaz. Je n'ai pas de problème. Le Rav Ben Haïm, le directeur de la yeshiva maintenant, c'était mon copain au collège. Ou dans mon collège, j'étais avrech, donc j'étudiais la Torah en moyennant une bourse mensuelle. Je lui dis, écoute, j'ai des donateurs, on ouvre un Talmud Torah. Tu seras le directeur, moi je m'occupe un peu comme ça. On ouvre le meilleur Talmud Torah au monde. Pour les Saradim. Bon, on met en place tout le machin, tout est réglé, ficelé. Ok, on va rien faire sans prendre la bracha d'un gadol, on va voir le Rav Shach. Le Rav Shach, on arrive, il y a un type qui sort, il dit le Rav a demandé de rester tout seul un moment. Bon, on attend. Au bout d'un moment, le Rav Chaim me dit allez, vas-y, rentre. Bon, allez, tac, je rentre. Le Rav Shach dit ah. Du genre, j'ai demandé qu'on me dérange pas. Moi, je suis l'idiot du genre, je suis au courant de rien. Bon, il me fait, venez. Bon, je commence à expliquer, voilà, le Tshuva, ça fait 4-5 ans que j'étudie à la Yeshiva. Bon, au Hachem, j'aime bien étudier, mais il y a un problème des Talmud de Torah pour les Sfaradim. Et moi, j'ai un donateur, il est prêt à me donner tous les mois tout ce qu'il faut. On a tout mis, tout fils de comme on a les profs, les machins, tout ça, on fait un Talmud de Torah, Sfarad. Le Rav, il m'écoute comme ça, les yeux fermés, hein, il me voit à peine. Et je vois, il fait comme ça. Après, je lui dis, mais d'un autre côté, j'ai que 4-5 ans de Torah dans le ventre. Peut-être que je vais encore, jamais étudier, peut-être que je vais encore monter, l'Igdol de Torah, grandir en Torah. Et là, je vois qu'il fait comme ça. Bon, je me suis dit, ok, la réponse est claire. Oui, oui, le Talmud Torah, non, étudier la Torah. Il me dit, Asolos Robim, je ne comprends rien, il dit ça avec l'accent yiddish. Je lui dis, pardon, tu veux faire Atzalat Rabim, tu veux sauver beaucoup de monde. Et tu dis, tu pourras sauver beaucoup plus. Et comme ça a été enterré le projet du Talmud Torah, et je me suis remis à étudier la Torah. Et je dois vous dire que lorsque je lui dis, je vais l'Igdol Betorah, je vais encore grandir en Torah, j'ai eu comme ça un élan intérieur. Et lui, j'ai vu qu'il faisait comme ça. J'ai vu une lumière comme ça. J'ai senti un truc de ma vie, je n'ai pas ressenti vraiment une lumière, comme un flash. Tac! Comme si lui avait senti le truc et il me renvoyait en plein dans la figure comme ça, un flash de ma vie, je n'ai pas senti un truc pareil. Kadosh, un homme kadosh, kadosh. Parce que quand j'ai dit ça, il a un peu ouvert les yeux. Tac, comme ça. Voilà. Donc on s'est remis à étudier. Et on parlait de faire des séminaires, des conférences pour les francophones en français. Moi, je suis d'accord. Mais il n'y avait rien qui se faisait. Puis un jour, on m'a dit, voilà, il y a une réunion, tous ceux qui sont intéressés par cela, à Beit Dagan. On donne l'adresse, je vais là-bas. Et il y avait des avrechim de Bnei Brak qui disaient la méthode Arachim, c'est un truc américain, preuve par A plus B, ça ne marchera pas avec les Français, les Français, il leur faut de la pensée, de la philo. Donc on fait la Gemara, et dans la Gemara, comme ça, on sort, on fait de la philo, et comme ça, les gens, ils font tchouva. Moi, j'ai vécu un séminaire, je sais à quel point c'était très, très fort, très puissant. Et moi, la Gemara avec la philo, c'est pas mon truc. Bon, je dis oui, non, oui, non. Ils m'ont dit non, moi j'étais en minorité. Je dis bon, c'est comme ça, ok. Je rentre à la maison, je suis sur la route comme ça, je rentre à pied. Bon, bah tant pis, c'est pas pour moi, je continue à étudier, point barre. Et c'est, j'arrive à 1h du matin chez moi, je vais dormir. Ma femme lisait à l'époque Chovot El Vavot, les devoirs des cœurs de Rabbi Mubachaye. Et le bouquin était, traduction en français, était comme ça sur le truc de la fenêtre, le revers de le bord de la fenêtre. Bon, je prends le bouquin histoire de m'endormir en faisant un truc, j'ouvre comme ça. Je vois, celui qui peut faire tchouva aux frères de son peuple et ne le fait pas, reverra leur sang tomber sur sa tête. Bah, c'est clair comme message. Donc, tu veux monter en torrent, par maintenant de faire tchouva. Hein? Je ne croyais pas du tout. Non, même ça m'a quand même... Pourquoi je n'y crois pas? Parce que je veux dire la suite de l'histoire. Bon, je vois le Rabbi Abba Shaoul, Zatzal, je raconte toute l'histoire. Voilà, Arachi, machin, tout ça, tout ça. Là, écoutez, je peux grandir en Torah. La même question que je posais il y a quelques années au Rav Shach. Il me dit, est-ce que tu sens que tu avances en Torah? Je dis oui. Je dis comme ça, j'ai vu, il a fait boum en arrière. De nouveau, c'était avec un élan comme ça. Il a fait comme ça. Il m'a dit, continue à étudier. Et les séminaires, il m'a dit, Ben Azmanim, tu fais des séminaires. Le temps normal, tu étudies. Bon, ok, voilà, merci beaucoup. Je descends. Je descends, je dis, le rêve, j'ai oublié de lui raconter le truc du rêve. Je remonte de nouveau, hop, en ascenseur. Les codards, j'ai oublié de vous dire. Il m'écoute, il a pris en considération, il dit, mais comme je te dis, rien n'a changé. Rêve ou pas rêve, rien n'a changé. Et fil en aiguille, je n'ai pas écouté le rabbanim, j'aurais dû étudier encore beaucoup plus. Et comme a dit le Rav Char, si j'ai étudié beaucoup plus, j'aurais pu faire encore beaucoup plus. Et peu à peu, voilà, on a commencé. La suite au prochain, parce qu'on doit à ça. la suite au prochain numéro.